Bonjour à toutes et à tous. Merci Dominique. Merci pour ce témoignage qui nous montre la puissance de l'action de Dieu dans les vies. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça sera avec des hauts, des bas. Moi, cette semaine, pour le travail, je suis allé en Angleterre pour une réunion près de Londres. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais aller en profiter pour faire un peu de tourisme sur le chemin du retour. Je me suis arrêté pour visiter le château de Windsor. Et donc, quand on entre dans le château, quand on achète son ticket, on est accueilli par la photo d'une grand-mère avec ses petits-enfants qu'on va afficher. Je ne sais pas si vous la reconnaîtrez. Voilà. C'est cette photo-là en tout grand. Et c'est pas une grand-mère comme les autres, hein, puisque c'est la chef d'État du Royaume-Uni. Et là, même si ça reste honorifique dans beaucoup de cas, hein, aujourd'hui, ce que peut faire la reine d'Angleterre, elle a quand même un certain nombre de prérogatives, et notamment toutes les lois qui sont votées par le Parlement en Angleterre, en Grande-Bretagne, doivent être validées par la reine. C'est aujourd'hui une formalité, mais voilà, les rois d'Angleterre ont toujours eu exercé la justice, et encore aujourd'hui, c'est la reine qui valide les lois. Alors, ce matin, on va parler de la loi. Chouette, hein? Et quand on lit la Bible, quand on commence dans la Genèse, quand on termine dans l'Apocalypse, on voit que la loi occupe une place importante. C'est omniprésent dans l'Ancien Testament. Et quand on parle de loi, on fait référence au texte qu'on trouve dans les 5 premiers livres, et puis surtout dans Exode, Lévitique, Deutéronome, et aussi dans Nombre. C'est omniprésent dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Jésus parle beaucoup de la loi, Paul en parle également beaucoup. Cette loi reçue par Moïse se trouve mentionnée de très nombreuses fois dans la parole de Dieu. Et on va lire ce matin un texte que l'apôtre Paul a écrit au sujet de la loi. C'est dans la lettre qu'il a écrite aux Galates. La lettre aux Galates, elle était destinée à des églises qui sont situées en Galatie. On va voir où ça se trouve. Voilà. C'est en plein milieu de la Turquie actuelle. Et c'est la toute première lettre que Paul écrit et qu'on ait gardée. Donc, voilà, Paul était déjà converti depuis plusieurs années hein, quand il écrit cette lettre. Il avait déjà fait un premier voyage justement pour fonder des églises dans cette zone, les églises de Lystre, de Derbe, d'Iconium. Et Paul est averti, il est de retour à Antioche, donc un peu au nord de Jérusalem, et il est averti de dangers que courent les églises de Galatie. Le danger en question, c'est que des Juifs convertis sont allés dans les églises de Galatie pour annoncer un message qui, en résumé, était le suivant. Si vous voulez, vous êtes devenus des chrétiens, c'est très bien, parce que vous avez la foi en Jésus, et pour devenir des super chrétiens, des vrais bons chrétiens, vous devez en plus vivre comme des juifs. C'est-à-dire, vous devez, notamment pour les hommes, vous circoncire, et vous devez manger kasher, vous devez respecter le Shabbat, etc. Et pour Paul, ce message-là était très dangereux pour l'Église. Et donc il prend sa plume, il écrit une lettre à ces églises de Galatie qu'on a toujours aujourd'hui dans notre Bible. Et je vous propose de lire 11 versets dans ce livre, les versets 19 à 29 du chapitre 3, qui vont aussi s'afficher derrière moi et qu'on va lire dans la version du Semeur. Galates chapitre 3. Versets 19 à 23. Mais alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Or, s'il y a eu un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause. Mais pour la promesse, Dieu seul est en cause. La loi irait-elle donc à l'encontre des promesses divines? Certainement pas. Ah, sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions être justes devant Dieu, sous le régime de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ, pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Amen. Bon, alors c'est Paul qui écrit, hein, donc c'est bien dense, n'est-ce pas? Des questions, des réponses, des exclamations, des phrases qui parfois donnent un peu le tournis, qu'on doit relire 2-3 fois. Mais c'est un texte qui affirme des vérités importantes. La première, c'est que c'est la foi seule qui sauve. C'est la foi seule qui rend l'homme juste devant Dieu. Et c'est l'Épître aux Galates a été vraiment une lettre, une partie de la Bible qui a été lue et méditée par Luther, par Calvin. Et on avait l'année dernière les 500 ans de la Réforme. Le principe de la foi seule, sola fide, est affirmé très fortement dans cette lettre aux Galates. Et le second point, c'est que pour le chrétien de Galates, de Vendeuvre, de Nancy, qu'on soit juif d'origine ou pas, on doit avoir une juste vision de ce qu'est la loi et encore aujourd'hui de ce que la loi représente pour nous. Et ce rôle, en tout cas, ce n'est pas de sauver. Il est différent et on va en parler. Mais d'abord, Paul réaffirme que c'est la foi seule qui sauve. Rien d'autre, absolument rien d'autre ne peut nous rendre juste aux yeux de Dieu. Et que ça a toujours été le cas. Même dans l'Ancien Testament, c'est la foi qui sauvait les hommes. Au début, dans le premier verset, verset 19, on parle de la promesse d'Abraham. Dans le verset 29, on parle de nouveau de la promesse d'Abraham. Cette promesse, c'est dans Genèse 12. Lorsque Dieu appelle Abraham, il lui fait la promesse de lui donner une descendance, qu'à travers cette descendance, toute l'humanité, toutes les nations, tous les peuples, les goyes que nous sommes, les goyim, seront bénis à travers Abraham. Et en fait, Paul dit, qu'est-ce qui a sauvé Abraham? Abraham, il n'avait pas la loi. Moïse, c'est plusieurs centaines d'années après. Ce qui a sauvé Abraham, c'est d'avoir cru dans la promesse de Dieu, c'est d'avoir fait confiance à Dieu. C'est la foi d'Abraham qui lui a permis d'être sauvé. Paul en parle aussi en Romains, dans la lettre aux Hébreux, l'auteur de la lettre aux Hébreux en parle. C'est par la promesse que Dieu donne sa grâce à Abraham. Et si Abraham pouvait être sauvé par la foi en Dieu, nous, à combien plus forte raison, on peut être sauvé uniquement par la foi. Entre Abraham et aujourd'hui, il y a eu un événement capital, c'est la venue de Dieu sur terre, en Jésus-Christ. Nous avons une révélation beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde que celle dont Abraham a pu bénéficier. Je relis juste 2 versets du texte qu'on vient de lire. Verset 22, « Le don promis aux croyants leur est accordé au moyen de leur foi en Jésus-Christ. » Verset 24, « Nous sommes conduits au Christ pour être déclarés justes devant Dieu par la foi. » Mais si pour être juste devant Dieu, il faut avoir foi en Jésus-Christ, Abraham, lui, il a vécu 1800 ans avant, comment est-ce que ça fonctionne? Si c'est Jésus-Christ qui sauve, comment est-ce que les gens de l'Ancien Testament ont pu être sauvés? C'est une question importante parce que souvent, on peut se dire, dans l'Ancien Testament, il y avait la loi, les gens étaient sauvés s'ils obéissaient à la loi. Paul nous dit ici, non, c'est pas du tout comme ça. Et déjà dans l'Ancien Testament, on était sauvés par la foi. Alors pour répondre à cette question, je vais faire un petit sondage. Qui parmi vous est myope? Ok. Alors je m'adresse à vous, frères et sœurs en myopie. Quand vous allez de temps en temps chez l'ophtalmologiste, pour faire un contrôle, qu'est-ce qu'il vous demande ? Il vous demande d'enlever vos lunettes ou les lentilles. Et puis, alors avant, c'était avec des lunettes où on mettait des lentilles de correction différentes. Maintenant, des fois, c'est avec des machines automatisées. Mais au début, quand il nous fait lire le texte, on va afficher. Voilà. Moi, quand j'enlève mes lunettes et que j'arrive chez l'ophtalmo, je vois ça. Et avant que Dieu se révèle aux hommes, les hommes, ils voyaient ça. Les hommes, ils voyaient des choses floues. Alors certes, il y avait la nature, nous dit Paul dans Romains. Il y avait la nature, il y a le ciel, le soleil, les montagnes, les saisons, les ruisseaux, la mer, des choses qui sont extraordinaires, qui impressionnent. On se dit forcément que ça vient de quelque part. Il y a un Dieu derrière tout ça. C'est ce qu'on appelle la révélation générale de Dieu dans la nature. Mais vous savez que le péché est présent dans le monde et que malheureusement même cette révélation générale que tout le monde peut voir s'est transformée dans beaucoup de peuples. Au lieu d'adorer le Créateur, c'est la montagne, la forêt, les arbres, les ruisseaux qui sont devenus des divinités. On a eu besoin, pour que ce flou s'enlève, que Dieu se révèle. Et lorsqu'il s'est révélé à Abraham, c'est comme s'il avait mis une première lentille de correction et qu'on puisse voir la première ligne. Voilà. Sauvé par la grâce. À travers l'histoire d'Abraham, à travers l'histoire de sa famille, à travers les combats qu'il a menés, les doutes, sa persévérance à suivre Dieu, on a pu comprendre cette vérité-là. C'est par la foi, en faisant confiance en Dieu, que l'on est sauvé. Et Dieu a décidé d'aller plus loin dans sa révélation, dans le désir de se faire connaître aux hommes. Il est venu lui-même sur terre. Il est venu en Jésus-Christ pour se révéler. Et à travers sa vie, à travers son enseignement, à travers sa mort, sa résurrection, on a une nouvelle compréhension de ce qu'est le plan de Dieu pour sauver les hommes. Voilà. Les lignes suivantes, elles deviennent un peu plus claires. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés. Alors vous remarquerez qu'il y a encore quelques lignes, tout en bas, qui sont floues. Celles-là, je pense qu'on les lira seulement quand Jésus reviendra. Mais en même temps, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Parce que tout ce dont on a besoin pour comprendre le plan de salut pour les hommes, Dieu nous l'a donné dans sa parole. Et il nous a donné son esprit aussi pour qu'on puisse le comprendre, l'appliquer dans nos vies. J'aimerais bien les connaître, les petites lignes en bas qui sont floues, sur le plan cosmique de Dieu, des choses qui dépassent notre intelligence, notre entendement aujourd'hui. Mais il n'y a pas besoin d'aller essayer de les déchiffrer. On n'en a pas besoin aujourd'hui encore, dans l'état où on est actuellement. La foi seule permet d'être juste devant Dieu, nous rappelle Paul. Et cette foi, dans les derniers versets du passage, il nous dit qu'elle nous permet d'être réconciliés avec Dieu, puisqu'on est devenu fils de Dieu. On a été adopté par Dieu. Il y a une réconciliation verticale avec Dieu et une réconciliation horizontale entre les groupes humains qui étaient séparés par la loi. La loi faisait une distinction très nette entre les Juifs, le peuple choisi par Dieu, et toutes les nations, les non-Juifs. La loi faisait une différence importante entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà visité une synagogue, et dans les synagogues, encore aujourd'hui, il y a l'endroit où se réunissent les hommes et l'endroit où se réunissent les femmes. Paul ne dit pas ici que les différences disparaissent. Un homme reste un homme, une femme reste une femme, mais la séparation, ce qui crée un fossé entre ces différents groupes humains, saute par la réconciliation que nous offre Dieu en Jésus-Christ. Alors quand on entend tout ça, on se dit, mais oui, mais ok, donc c'est toujours la foi qui a sauvé. En plus, cette foi, elle donne la réconciliation avec Dieu, elle donne la réconciliation entre les hommes. Mais à quoi a donc servi la loi? Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi à Moïse? C'est une très bonne question. Et Paul savait que cette question serait posée. Et il y répond au verset 19 qu'on va afficher. Pourquoi la loi? Donc la question, elle n'est pas difficile à traduire. en grec, à partir du grec. La réponse est beaucoup plus difficile à traduire. Je ne sais pas si vous avez des Bibles avec vous, là. Est-ce que quelqu'un veut me dire, moi j'ai la semeur, est-ce que vous avez, je ne sais pas, si quelqu'un a une Bible second, par exemple. Oui. À cause des transgressions, ça c'est la traduction qu'on va trouver dans les versions second. Dans les versions catholiques, on va dire Bible de Jérusalem, Tob ou traduction œcuménique, c'est en vue des transgressions. C'est pour le péché. On a ces deux options de traduction, à cause du péché ou pour le péché. Ça a fait couler beaucoup d'encre, on va passer le ça ne nous intéresse pas dans le détail ce matin. Je pense que la traduction la plus cohérente, c'est celle qui est retenue par second et qui, dans la version du semeur, est détaillée. C'est à cause du péché, pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. La loi que Dieu a donnée à Moïse et au peuple d'Israël, elle avait pour but de faire comprendre aux hommes que quand ils commettent le mal, ils volent le bœuf de leur voisin. Non seulement ils commettent du mal envers leurs voisins, mais ils commettent aussi un péché vis-à-vis de Dieu. La loi, c'était un signe de la bonté de Dieu pour son peuple. Il voulait leur montrer un chemin de sainteté à suivre pour prévenir, pour empêcher les péchés. Et le problème, c'est que comme le dit le verset 22, l'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu. Rien n'échappe au péché dans le monde. Et la façon dont le peuple d'Israël a reçu, a compris, a intégré, dont il s'est approprié la loi, ça s'est malheureusement retourné contre lui. C'est souvent comme ça que fonctionne le péché. Une bonne chose créée par Dieu devient quelque chose de complètement tordu. Pensez à la sexualité, par exemple. Quelque chose qui a été une bénédiction de Dieu. Et pourtant aujourd'hui, malheureusement, dans tellement de manières différentes, c'est devenu quelque chose de pervers. La loi, qui est une bonne chose, qui a été donnée par Dieu au peuple, s'est transformée en quelque chose de négatif pour le peuple. Une puissance d'asservissement. Paul le dit de manière forte dans les versets 23-24. Nous étions emprisonnés par la loi. C'était une prison, la loi. La loi était comme un gardien. Certaines traductions ont pédagogue. Et le pédagogue, à l'époque de Jésus, ce n'est pas celui qui enseigne, c'est celui qui garde. C'est un gardien, il n'y avait pas de notion d'éducation. Et non seulement c'était la loi s'est transformée en ce gardien qui gardait dans la prison, mais en plus, cette loi, dit Paul, elle ne s'applique plus aux chrétiens. C'était pour un temps donné. C'était pour une période. Ça commence avec Moïse et ça se termine avec Jésus. Verset 25. Depuis que ce régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis aux gardiens. Un des versets les plus connus de Galates, Galates 5, verset 1, lui dit « Le Christ nous a rendus libres, réellement libres. » pour que nous connaissions la vraie liberté. Et quand ce verset de Galates, « Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre », dans la version de second, il parle de la liberté par rapport à la loi, par rapport à l'esclavage de la loi. Bon, c'est un tableau quand même un peu négatif. Aujourd'hui, les chrétiens n'y sont plus soumis. C'était pour une durée déterminée. C'était une bonne chose, mais qui s'est transformée en une prison pour le peuple d'Israël. On pourrait se dire que Paul dresse ici un tableau très sombre et que d'une certaine manière, dans nos Bibles, on pourrait complètement squeezer les chapitres qui parlent de la loi. Et malheureusement, certains chrétiens sont allés dans cette direction-là. Ils ont dit, non mais c'est tellement différent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et un homme qui s'appelait Marcion, alors c'était il y a très longtemps, c'était au IIe siècle, mais c'était une des premières grandes hérésies chrétiennes. Il était allé jusqu'à enlever quasiment tout l'Ancien Testament. Il ne voulait plus de l'Ancien Testament. Il disait, non, mais c'est pas le même Dieu dans l'Ancien et dans le Nouveau. Dans le Nouveau, on a un Dieu d'amour, et puis dans l'Ancien, on a un Dieu qui juge, qui condamne. Alors bien sûr, c'est une erreur. C'est une erreur, et si Paul met ici, souligne bien que la loi ne nous concerne plus, elle n'est plus le régime sous lequel on vit, il ne faudrait pas, si on passait l'expression, jeter le bébé avec l'eau du bain. Certes, la loi ne nous sauve pas. On n'est plus soumis à la loi, mais elle vient de Dieu. Elle est bonne, elle est parfaite. Relisez le psaume 119, qui parle de la loi de Dieu, des commandements de Dieu. La loi reflète le caractère de Dieu. Elle reflète sa volonté. Et il faut lire la loi, il faut la méditer, il faut l'étudier, il faut l'enseigner, mais avec la bonne perspective. Voir la loi à travers l'œuvre de Jésus. Et Jésus, il a dit quoi? Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. On trouve par exemple dans la loi beaucoup de textes sur la pureté rituelle. Il faut pas qu'il y ait de... il fallait se laver, il fallait que le grand prêtre soit pur, etc. C'est des textes qui peuvent paraître un peu fastidieux, mais ça nous montre à quel point Dieu ne supporte pas le péché, ne supporte pas la souillure. Mais nous savons à présent qu'avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons être purifiés dans nos cœurs. On trouve dans la loi beaucoup de textes qui parlent de sacrifices. De sacrifices pour certains qui devaient être faits pour pardonner les péchés. Ça montre l'importance de la repentance, de la démarche que l'on doit avoir, de se tourner vers Dieu pour lui demander pardon. Mais nous savons aujourd'hui que nous pouvons directement nous adresser à Dieu pour lui demander pardon. Il y a des principes qui sont dans la loi qui peuvent nous enseigner. Mais regardons-les à travers l'œuvre du Christ. Alors peut-être que vous vous dites là, un texte sur la loi, sur la foi, moi je connais déjà un peu tout ça. Puis c'est un débat un peu ancien, ça concerne surtout les juifs qui se convertiraient aujourd'hui au christianisme, on n'est plus nous vraiment concernés. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais si on creuse la question dont Paul parle dans ce texte, on se rend compte que le danger que couraient les Galates, il nous concerne aussi. Parce que si on transforme la loi avec un grand L, la loi de Moïse qu'on trouve dans la Bible, par les lois avec un petit L, les petites lois qu'on met en place dans nos propres vies de foi, dans nos propres vies chrétiennes, on s'approche peut-être davantage de notre quotidien. À travers la question de est-ce qu'il faut, pour être un bon chrétien, manger kasher, être circoncis, respecter le Shabbat, Paul veut mettre en garde contre un danger qui nous concerne aussi, c'est celui d'une recherche de la fausse perfection. Qui n'a pas envie d'être parfait? Je pense qu'on veut tous être parfaits, d'une certaine manière. Et dans nos vies avec le Seigneur, dans nos vies chrétiennes, on recherche légitimement la perfection. Paul ici il dit attention à la façon dont vous le faites. Attention à ne pas vous illusionner sur vous-même, sur la manière d'être de bons chrétiens. Pour les Galates, rechercher la fausse perfection, c'est penser qu'il faut ajouter des choses à la foi pour être bien vu de Dieu. Que croire en lui ne suffit pas. Et donc ces choses, c'est ce qu'on a dit, c'est la circoncision, la pureté dans les repas, le respect des jours où on ne doit pas travailler. Et si vous rappelez un petit peu le contenu de la lettre de Galates, il y a beaucoup de mise en garde de Paul contre la jalousie, contre les dissensions, contre les critiques, contre les divisions, contre l'orgueil. Pourquoi? Parce que quand on commence à faire une recherche de perfection par ces moyens-là, en disant que moi je suis plus adopté que toi, ou je suis plus fils de Dieu que toi, on se compare et ça crée des divisions dans l'Église. Rechercher la fausse perfection pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est comme pour les Galates, penser que pour être bien vu de Dieu, ou mieux vu de Dieu, ou mieux accepté de Dieu, il faut ajouter des choses à la foi, à la confiance qu'on place en Dieu. Au Moyen-Âge, les chrétiens se mortifiaient. Heureusement, on n'est plus au Moyen-Âge. Les cilices, certains se plaçaient un cilice autour de la cuisse, qui était un cercle de fer avec des pointes qui rentraient dans la chair, pour souffrir, pour partager les souffrances du Christ, dans le but d'avancer dans un chemin de sainteté. Aujourd'hui, j'espère que personne ne porte de cilice sous son pantalon. Mais je vous laisse réfléchir à ce que ça pourrait être dans chacune de nos vies. Pour moi, par exemple, ça pourrait être le fait de lire beaucoup de livres de théologie et d'étendre mes connaissances bibliques. C'est des choses bonnes. Et je ne fais pas de la contre-pub pour la maison de la Bible. Et le problème, c'est que sournoisement, je peux avoir l'idée ou l'impression qu'en faisant ça, je gagne un peu des galons auprès du boss, auprès de Dieu. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Peut-être que pour d'autres, ça peut être la durée et l'intensité des prières, le nombre de chapitres de la Bible lus chaque jour. Vous voyez, ce sont des bonnes choses. Prier, lire la parole, c'est indispensable pour nos vies, mais ça doit avoir la juste place dans notre vie de foi avec le Seigneur. C'est pas parce qu'on lit 10 chapitres, c'est pas parce qu'on prie pendant 2 heures que Dieu nous accepte davantage. Dieu nous accepte parce qu'on a foi en lui, point. Paul pose aux Galates cette question qui est un peu dure à entendre. On va l'afficher, Galates chapitre 3, verset 3. Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce avec vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Ça, c'est un peu comme une claque qu'on donne à quelqu'un qui est en train de perdre connaissance pour le réveiller. Il leur dit, non mais eh oh, réveillez-vous. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et maintenant, vous voudriez rajouter des choses en plus pour parvenir à la perfection. Paul ici dit, oui, c'est bien de vouloir être un chrétien parfait, mais ce n'est pas avec vos propres règles, avec votre propre rituel que vous y arriverez. C'est comment ? C'est par l'Esprit. Dieu nous a donné son Saint-Esprit qui est en nous. Ce Saint-Esprit nous guide vers le chemin de la perfection, de la vraie perfection. La vie chrétienne, c'est pas la liberté absolue, sans aucun impératif. Jésus, quand on lui a demandé de résumer la loi, justement, qu'est-ce qu'il a répondu ? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a des impératifs. On est appelé à vivre des choses. Et on est certainement appelé, en tant que chrétien, à vivre une vie plus consacrée, une vie de sainteté plus intense que ce qu'ont pu vivre le peuple juif dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et à celui à qui on donne davantage, on demandera davantage. Mais la bonne nouvelle, c'est comme le dit Calvin, ce que Dieu ordonne, il le donne. Dieu nous ordonne de vivre une vie de sainteté et il nous donne les moyens de le vivre à travers l'Esprit Saint. Apprenons à faire confiance à Dieu, il s'occupe de notre péché. Nous avons à nous occuper de vivre selon l'Esprit et de mettre en œuvre notre foi. C'est le dernier verset que j'aimerais qu'on affiche, qui est dans les deux derniers versets. Quant à nous, notre espérance est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe n'est pas d'être circoncis ou pas. Il n'y a rien à ajouter à la foi. Par contre, ce qui importe, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés de l'amour. Consacrons notre énergie à vivre notre foi, à la mettre en application, à la mettre en action dans nos familles, dans l'Église, dans la société. Des actes inspirés de l'amour. Pour conclure, ne sentons pas les passages de la Bible lorsque nous tombons sur des textes juridiques, des textes de la loi. Apprenons à les lire, à les méditer, tout en gardant à notre esprit que, en Jésus, nous ne sommes plus soumis à cette loi. Demandons à Dieu de nous aider à vivre cette réalité de la foi seule pour venir à lui, pour être accepté par lui complètement, pleinement. La foi sans rien ajouter. Et fort de cette certitude, mettons notre foi en action par des actes inspirés par l'amour. Amen. Merci Père parce que tu t'es révélé aux hommes. Merci parce que tu ne nous as pas laissés dans le flou avec notre myopie, mais tu nous as révélé ce qui était nécessaire pour nous, afin que nous puissions être réconciliés avec toi, venir à toi, sur la base de notre foi, sur la base de notre confiance dans l'œuvre de ton Fils Jésus à la croix. Et merci parce que tu nous accueilles, parce que tu nous acceptes comme tes fils. Garde-nous, Seigneur, de vouloir nous lancer dans une recherche de fausse perfection par nos propres moyens, comme dit l'apôtre Paul. Aide-nous à nous laisser guider par le Saint-Esprit qui est en nous. Montre-nous les actes inspirés par l'amour que tu as prévu pour nous cette semaine, dans notre famille, sur notre lieu de travail, dans la rue, auprès de nos concitoyens, ici dans l'église, auprès de nos frères et sœurs. Amen.